Travailleuses, travailleurs, chers amis. Donc Dominique l'a dit, aujourd'hui nous sommes le 8 mars. La Journée internationale des femmes fait en effet partie du meilleur des traditions du mouvement ouvrier. Même si aujourd'hui le gouvernement la reprend à son compte, à l'origine, il s'agissait d'une journée de mobilisation, de grève et de manifestation organisée par le mouvement socialiste révolutionnaire contre le pouvoir et le patronat sur le modèle du 1er mai. C'est Clara Zetkin qui la proposa en 1910. J'ai entendu aujourd'hui à la radio et j'ai lu dans la presse que Clara Zetkin était une journaliste, une féministe. Eh bien, tout ça, ce sont des mensonges, par omission. Si Clara Zetkin était journaliste, c'est parce qu'elle écrivait des articles, mais dans son parti, dans le parti socialiste révolutionnaire allemand. Et si elle était féministe, c'est parce qu'elle était justement socialiste. Et parce qu'elle combattait toutes les oppressions, à commencer par l'exploitation capitaliste. C'est cette journée... Pour rappel aussi, je voudrais dire que c'est cette journée, le 8 mars 1917, que les ouvrières du textile de Pétrograd choisirent pour se mettre en grève. Une grève qui fut le point de départ de la révolution russe. Autant dire que l'esprit de cette journée était aux antipodes des discours et des hommages hypocrites que nous servent aujourd'hui gouvernement et médias. C'était une journée de lutte portée par les femmes ouvrières. Et c'est en restant fidèle à cet esprit que la cause des femmes avancera. Car le problème, ce n'est sûrement pas de faire le point sur le nombre de femmes PDG, milliardaires ou ministres. Pour nous, l'émancipation des femmes ne se mesure pas à cela. La première fortune de France est une femme, Madame Bettencourt. Elle est actionnaire principale de L'Oréal et elle possède près de 40 milliards d'euros de patrimoine. Qu'est-ce que cela change pour l'écrasante majorité des femmes, à commencer par celles qui travaillent dans les usines ou dans les laboratoires de cosmétiques? Rien. Les femmes de la bourgeoisie n'échappent certes pas aux préjugés machistes, mais elles, elles ont de l'argent, une position sociale, une indépendance financière, et elles échappent à l'exploitation. Ce n'est pas le cas des femmes qui appartiennent au monde du travail. Chômage, temps partiel imposé, boulot mal payé, les femmes des classes populaires sont les premières frappées. Avec des salaires inférieurs de 20% à ceux des hommes, avec des pensions de retraite inférieures de 40%, les femmes forment la moitié la plus exploitée de la classe ouvrière. Et dans la crise, ce sont encore les femmes qui ont pris de plein fouet les licenciements, la précarité. Quant aux coupes dans les services publics, lorsque l'école ou l'hôpital ne remplit plus son rôle, c'est encore sur les femmes que cela retombe le plus. Alors, on ne peut pas combattre réellement pour les droits des femmes sans lutter contre le chômage, contre les licenciements, contre les bas salaires et les petites retraites. C'est le combat commun aux exploités qui peut faire avancer les droits des femmes. Bien sûr, à l'oppression économique s'ajoute le sexisme. Les préjugés qui veulent que les femmes doivent s'occuper des enfants, des courses, du ménage. Et c'est sans parler des vexations, du harcèlement et des violences dont les femmes continuent à être victimes. Il faut prendre le contre-pied de toutes ces formes de rabaissement de la femme, car loin de reculer, ces préjugés vont croissant, notamment sous l'influence des intégristes. Qu'ils soient catholiques, musulmans ou juifs, les intégristes cherchent à imposer des valeurs contraires à l'égalité des sexes et à l'émancipation des femmes. Et ces attaques contre les femmes ne se multiplient pas qu'en Irak, en Syrie ou au Mali, dans les zones contrôlées par les bandes moyenâgeuses du type Boko Haram ou Daesh. Elles avancent ici aussi. Il y a toujours eu en France une frange assez réactionnaire pour s'opposer au droit à l'avortement. Mais elle se fait de plus en plus entendre. On l'a entendu s'élever contre les ABCD de l'égalité à l'école, ou encore contre l'éducation sexuelle. Eh bien, tous ces gens-là tirent la société en arrière et il faut s'élever contre tout ce fatras. Mais on ne pourra le balayer vraiment que lorsque la société repartira de l'avant, c'est-à-dire lorsque les femmes exploitées et les hommes se battront ensemble pour renverser le système capitaliste qui les condamne aujourd'hui à la misère, aux inégalités et à l'oppression. Alors, vive la journée du 8 mars et vive la lutte de tous les exploités. Je l'ai dit en parlant de la situation des femmes, mais c'est vrai pour tous les exploités. Les premiers à payer pour la crise, ce sont les travailleurs. Matériellement, quelle famille populaire n'a pas reculé? Nous n'avons pas été frappés avec la même brutalité que la population grecque, mais nous régressons d'année en année. En prenant un peu de distance, on mesure l'ampleur du recul. Il y a 25 ans, il était évident pour tout travailleur que la retraite, c'était à 60 ans, avec 37 annuités et demie de cotisation. Qu'être embauché, cela voulait dire être embauché en CDI, alors qu'aujourd'hui, 94% des embauches, ce qu'ils appellent des embauches, sont en CDD ou en mission d'intérim. Le patronat ne se met peut-être plus à la porte de l'usine pour dire « toi je te prends, toi je ne te prends pas ». Mais c'est tout comme. Combien de travailleurs peuvent être sûrs et certains d'avoir un emploi jusqu'à leur retraite? Combien d'entre nous attendent le coup de fil qui leur donnera quelques jours, quelques heures de travail? Et les jeunes qui se retrouvent à travailler gratuitement pendant des semaines de stage, quand est-ce qu'ils auront le droit à une embauche? Quant à la retraite, regardez comment on nous habitue à l'idée qu'il ne faut plus compter dessus. Alors oui, la crise a considérablement accéléré le rythme des attaques contre les travailleurs. Que le patronat en profite pour s'en prendre aux travailleurs, pour accentuer son exploitation, c'est dans l'ordre des choses. Il a ses intérêts de classe, il a une politique de classe et il la mène. Ce qu'il est moins, c'est que face à lui, les travailleurs restent sans réaction. Bien sûr, le combat des travailleurs est difficile. Il a toujours été difficile, parce que c'est un combat inégal. Le grand patronat est en position de force vis-à-vis des travailleurs. Il décide de qui il fait travailler, de quelle usine il garde, de quelle usine il ferme. Avec son argent, il peut à peu près tout acheter. Il a le pouvoir économique et le gouvernement à ses pieds. Et il faut de la force aux travailleurs. Il leur faut du courage, de la combativité et de la solidarité pour qu'ils se lancent dans le combat. C'est difficile en temps normal. Ça l'est encore plus en période de crise, parce que la vie elle-même est plus dure. Parce qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Qu'on va de galère en galère, eh bien oui, cela use. Cela use physiquement, moralement. Et quand on se retrouve au chômage, comment s'organiser? Contre qui se battre? Comment rompre l'isolement? La crise pèse donc sur le monde du travail. Tandis qu'elle donne de nouvelles armes au patronat. Le chantage à l'emploi, à la compétitivité, à la faillite. Mais l'abattement et le défaitisme ambiant sont amplifiés par le fait que les travailleurs ne peuvent plus compter sur les organisations ouvrières qu'ils ont construites au fil du temps. Les syndicats et les partis politiques dans lesquels ils avaient mis leur capacité militante et leur confiance ont fait pire qu'abandonner le combat. Leur direction et leurs appareils sont passés du côté de la bourgeoisie. Et les travailleurs, même les moins politisés, ont des yeux pour le voir. Pourquoi les syndicats apparaissent comme des repoussoirs aux yeux de nombre de travailleurs aujourd'hui? Ce n'est pas à cause des militants syndicaux. Les plus actifs, les plus dévoués sont sollicités en permanence par leurs camarades de travail. C'est à cause de leur sommet, c'est à cause de leur politique de compromission avec le patronat et le gouvernement, c'est à cause de leur comportement de bureaucrate. Pourquoi certains ouvriers vont-ils jusqu'à exprimer de la haine vis-à-vis des socialistes? Parce qu'à chaque fois qu'ils accèdent au pouvoir, c'est la même histoire. Des promesses au moment des élections, la trahison dès le lendemain et une politique anti-ouvrière pendant 5 ans. La politique de Hollande en est la preuve vivante. C'est le Parti socialiste qui orchestre les reculs dont j'ai parlé tout à l'heure. La loi qui permet de baisser les salaires et d'allonger le temps de travail sans augmentation de salaire, c'est lui. Le dernier allongement des annuités de cotisation pour la retraite, c'est lui. La loi Macron qui continue la casse du code du travail et le démantèlement des lois sociales, c'est encore lui. Tout ce que le grand patronat ordonne, le gouvernement l'exécute. Alors oui, les travailleurs ont de quoi se sentir trahis. Ils sont désorientés dans le meilleur des cas, aigris dans le pire. Et tout cela conduit à user jusqu'au plus combatif. Voilà la situation objective. Il faut la comprendre si l'on ne veut pas rester à se lamenter sur la faiblesse des mobilisations. Il faut regarder les choses en face et en tirer les leçons pour ne pas retomber justement dans les mêmes pièges. Loin de nous démoraliser, cette situation nous conforte dans notre politique et dans nos convictions communistes révolutionnaires. Dans le passé, même en période de basses eaux, et lorsque les luttes n'étaient pas au rendez-vous, nombre de travailleurs continuaient à se raccrocher à l'idéal du socialisme. Ils gardaient la conviction que tôt ou tard, la classe ouvrière serait capable de renverser la bourgeoisie et de mettre fin à l'exploitation, de faire table rase de toutes ces injustices et inégalités. Quand bien même ce n'était pas pour tout de suite, cela restait une perspective vivante, discutée, partagée dans la classe ouvrière. L'abandon par le Parti socialiste des véritables idées socialistes, par le PC des véritables idées communistes, ne date pas d'hier. La gangrène du réformisme a transformé le PS en parti bourgeois, capable y compris de réprimer férocement les luttes de la classe ouvrière depuis plus d'un siècle. Quant au PC, parti communiste né de la révolution russe, il a été frappé par la plaie du stalinisme qui a dénaturé l'idéal communisme. Mais ce qui est sûr, c'est que les travailleurs ne se sont pas détournés du PS et du PC parce qu'ils étaient trop révolutionnaires. C'est le contraire. C'est parce qu'ils ne l'étaient pas assez, parce qu'ils ont abandonné cette perspective révolutionnaire. Alors oui, il faut reconstruire, continuer de lever le drapeau communiste, car tôt ou tard, les travailleurs se tourneront vers les idées révolutionnaires, les seules qui leur offrent une perspective. Les déceptions, les reculs dus à la crise expliquent l'abattement dont j'ai parlé, les réactions individualistes, le repli sur soi, la montée aussi du racisme et du communautarisme que l'on constate aujourd'hui. C'est là-dessus que se greffent les charlatans de toutes sortes, à commencer par le Front National. Dans la réflexion, il n'y a que lui que l'on n'a pas essayé, transparaît tout le désespoir de ceux qui ont cru dans toutes sortes de remèdes miracles et qui se disent que le dernier sur le marché ne peut pas faire plus mal que les autres. Le Front National surfe aujourd'hui sur toute une ambiance aussi nauséabonde, alimentée, oula, on va remettre ça en place, il y a du boulot, hein, comme je le disais. Donc je vais m'employer à redresser le drapeau dans mon allocution. Donc je le disais, le Front National surfe sur aussi toute une ambiance nauséabonde, alimentée par des clowns nationalistes et racistes à la Zemmour, ou par des faux comiques à la Dieudonné, obsédés de l'antisémitisme. Ils surfent là-dessus et sur, je l'ai déjà dit, la démoralisation. Parce qu'il faut vraiment être démoralisé et déboussolé pour croire que la crise et le chômage pourraient être réglés si on renvoie les étrangers ou si l'on ferme les frontières. Mais tout cela aura une fin. Je l'ai dit, toute cette pourriture, le Front National, le racisme, cette mouvance intégriste n'a d'écho dans la classe ouvrière que du fait de l'abattement et de la résignation. Et cela changera. Car un état d'esprit, eh bien ça change. Par la force des choses, pour se défendre, il y aura des réactions de la classe ouvrière. La classe ouvrière n'a pas connu de défaite autre que la défaite économique. Elle en a connu d'autres dans toute son histoire. Elle a connu des massacres, des défaites sanglantes. Et elle a toujours fini par se relever. et elle se relèvera encore. Et le patronat ne nous laisse de toute façon pas le choix. On le voit, il est prêt à reprendre tout ce qu'il a été obligé de concéder à la classe ouvrière. Et comme dans le passé, si nous voulons sauver notre peau, nous devrons nous battre. Et c'est ce combat qui fera repartir la société de l'avant. Quant à la crise, elle est la démonstration que le capitalisme ne peut pas être l'avenir de la société. Les travailleurs des années 90, pouvaient peut-être se dire qu'après tout, le capitalisme permettait d'améliorer les conditions de vie. Même dans une famille de prolétaires, il y avait cette conviction que les enfants, s'ils arrivaient à faire des études, vivraient mieux que leurs parents et que la vie serait plus facile. Il y avait l'idée d'un progrès de la société. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir de telles illusions. Tout le monde s'étonne qu'en pleine crise, le nombre de millionnaires et de milliardaires augmente. Mais c'est le système. Si la crise est synonyme de chômage et de misère pour les travailleurs, elle représente une période formidable pour le grand capital. C'est la grande baraderie des capitalistes, le moment des bonnes affaires. C'est l'occasion d'écraser et de racheter des concurrents, d'imposer leurs lois sur les plus faibles. C'est le propre du capitalisme que de concentrer la richesse à un pôle. Et en période de crise, oui, cette concentration atteint des sommets. Tous les médias sont restés béats d'admiration devant le jeune Américain de 24 ans, devenu milliardaire, parce qu'il a inventé une application Internet qui a fait fureur. Ils veulent nous faire croire que c'est une question de travail et de mérite. Eh bien, c'est au contraire la preuve d'un système délirant, la preuve de ce que notre économie n'est plus qu'un immense casino qui a concentré tellement d'argent à un pôle qu'il en fait dégouliner sur tous ceux qui peuvent, à un moment ou à un autre, se servir. Tout ce que l'on vit aujourd'hui, cette concentration à un pôle et l'aggravation de la misère à l'autre, n'est pas la fatalité de la crise. Il ne s'agit pas là de lois économiques qui s'imposeraient, il s'agit de la guerre de classe. Et à l'inverse du gouvernement, les travailleurs n'ont sûrement pas à se réjouir des super profits annoncés par les entreprises du CAC 40. Ceux-ci sont supérieurs de 30% à ceux de l'année dernière. Mais ces super profits qui font dire aujourd'hui à Hollande et à Valls qu'il y aurait une reprise, eh bien, ces super profits sont réalisés à chiffre d'affaires égal, sans développement de la production. Autrement dit, ces 30% n'ont pas été pris sur les concurrents, ce ne sont pas des parts de marché supplémentaires, parce que les entreprises seraient devenues plus compétitives. Ces 30% qui sont pris sur le dos des travailleurs et qui correspondent exactement aux suppressions de postes, à l'augmentation des cadences, à l'augmentation du temps de travail, au blocage des salaires. Ces 30% d'augmentation correspondent aux 30% de richesses qui ont été volées aux travailleurs. Et cette guerre de classe, eh bien, elle ne prendra pas fin avec la crise. Si tant est que la reprise arrive un jour, pour qu'elle se traduise positivement pour les travailleurs, eh bien, il faudra qu'ils se battent. Parce que le patronat ne va pas rendre aux travailleurs tout ce qu'il leur a pris dans cette période de crise. Cette guerre de classe ne prendra fin qu'avec la fin du capitalisme. Et encore une fois, pour se battre efficacement, il faut se battre au jour le jour contre le patronat et contre le gouvernement. Mais pour se battre efficacement, eh bien, il faut être conscient d'avoir à contester la domination de la classe capitaliste, d'avoir à contester son pouvoir sur l'économie et d'avoir à la renverser. La classe ouvrière a une force prodigieuse. Elle l'a montré bien des fois dans le passé. Et elle a montré bien des fois dans le passé qu'elle pouvait inverser le rapport de force avec le patronat et même changer le cours de l'histoire. Mais cette capacité d'agir dépend de son union et de sa conscience. Et cette conscience, elle passe d'abord par le fait d'avoir à rejeter tous les partis bourgeois. Parti socialiste, UMP et Front National sont à mettre dans le même sac. Ils sont tous des représentants de la bourgeoisie. Ils pensent tous du point de vue bourgeois. Ils reprennent en cœur le chantage à la compétitivité, au coût du travail, les aides aux entreprises. On pourrait faire la liste, d'ailleurs, de ces aides aux entreprises accordées par Sarkozy et accordées sous Hollande. Et à chaque fois, le nombre de chômeurs a augmenté. Les mesures prises par Hollande montrent une continuité parfaite avec celle de Sarkozy. Sarkozy a détruit 80 000 emplois dans l'éducation nationale. Le gouvernement Hollande, qui a promis de sanctuariser l'éducation, veut en détruire, lui, 66 000 dans les hôpitaux pour diminuer la dette. Quant à la dernière loi en date du gouvernement, la fameuse loi Macron, c'est une loi de droite. Et d'ailleurs, elle a posé beaucoup de problèmes à la droite, qui était bien gênée de la critiquer, puisqu'elle ne faisait que poursuivre le boulot de démolition des lois sociales commencé par l'UMP. La droite, le Parti socialiste et même le Parti communiste qui a accompagné le PS au pouvoir à deux reprises ont tous pris part à cette politique anti-ouvrière. Au pouvoir, le PS et le PC ont trahi les intérêts des travailleurs parce que, comme tous les autres partis, ils ont considéré que les profits patronaux étaient sacrés, que la propriété des capitalistes, la loi du profit, le marché étaient incontournables. Ils ont trahi et trahiront toujours les travailleurs parce qu'ils ne peuvent pas penser autrement, parce qu'ils ne peuvent penser que de ce point de vue-là, que du point de vue bourgeois et selon les règles du capitalisme, quand bien même celui-ci a fait la preuve de sa faillite. Mais dans le lot, je l'ai dit, il faut aussi rajouter le Front National. Le Pen se dit anti-système, dans le sens qu'elle est contre le système politicien dominé par l'UMPS. Mais elle n'a rien contre l'ordre social capitaliste, où une famille bourgeoise peut disposer de la vie de centaines de milliers de travailleurs. Et pour cause, les Le Pen eux-mêmes sont des bourgeois qui ont fait fortune sur le travail d'autres en héritant du groupe de cimenterie Lambert. Vous avez sûrement entendu Marine Le Pen dire « c'est l'immigration qui fait baisser les salaires ». Comme si c'était les migrants de Calais qui fixaient les salaires et pas le patronat. Comme si les ouvriers algériens, marocains, portugais, roumains ou polonais préféraient être payés moins que les autres. Ce n'est ni les immigrés, ni le Saint-Esprit qui fait baisser les salaires ou qui ferme les usines. C'est le grand patronat et au nom de son profit. Et en le cachant, eh bien Le Pen fait le jeu du patronat. Alors le Front National, c'est un parti bourgeois qui défend une politique contre la classe ouvrière, exactement à l'identique du Parti Socialiste et de l'UMP, mais sans doute en pire pour les travailleurs. Parce que la politique à poigne qu'elle annonce contre les étrangers se retournera contre tous les travailleurs. Elle commence déjà à les diviser aujourd'hui et demain, elle les livrera les uns après les autres à la férocité patronale. Alors oui, le Front National est une menace mortelle pour les travailleurs. À l'inverse de tous les autres partis politiques, Front National inclus, nous ne prétendons pas avoir une politique pour résoudre les problèmes de l'économie en général et pour relancer la croissance économique. Dans le cadre du capitalisme, où le seul moteur est le profit individuel et la concurrence aveugle, c'est une cause désespérée. Mais nous disons que dans le cadre de cette économie injuste et complètement folle, eh bien, les travailleurs ont le droit et le devoir de se battre pour sauver leur peau. La croissance pour laquelle nous battons, ce n'est pas la croissance en général. C'est la croissance des emplois, des salaires, la croissance des pensions de retraite. Et la reprise que nous souhaitons, eh bien, c'est la reprise du pouvoir d'achat, l'amélioration de nos conditions de vie. Comme aux municipales et aux élections régionales de décembre 2015, les élections départementales nous donnent l'occasion de faire entendre le camp des travailleurs. Et comme l'a dit Dominique, nous nous présentons dans les trois cantons sur Argenteuil. Eh bien, il faut profiter de cette élection pour prendre la parole en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé, en tant que salarié qui défend ses intérêts d'exploité. Pour rejeter le gouvernement tout en dénonçant les partis bourgeois à la solde du patronat et pour affirmer les exigences propres au monde ouvrier. Les attentats du début du mois de janvier ont fait ressortir ce qu'il y a de pire dans la société. L'antisémitisme, l'islamophobie, tous les racismes. Que ce soit la droite, l'extrême droite, le Parti socialiste, tous cherchent à nous mettre dans le crâne que notre identité dépend de notre origine ou de notre confession. Mais notre identité ne se résume pas à cela. Un aspect essentiel de notre identité, c'est aussi d'être travailleur, d'être ouvrier pour certains, employé, gardien, aide-soignante, caissière pour d'autres. C'est à l'usine, au bureau, c'est au travail que l'on passe une grande partie de notre vie. On y laisse notre énergie, notre santé. C'est encore au travail que dépend notre salaire et nos conditions de vie. La galère de l'exploitation, les fins de mois difficiles, le chantage des chefs, tout cela nous le partageons avec nos camarades de travail. Face au patron, nous avons les mêmes revendications. Nous formons une classe sociale, une classe qui est composée de travailleurs de toutes origines et de toutes religions, mais qui a fondamentalement les mêmes intérêts et qui doit se battre unie. Alors, face à ceux qui veulent dresser un mur entre nous, il faut affirmer qu'il y a une seule et unique communauté, celle des travailleurs et des exploités, et il faut surtout que cette communauté de travailleurs se manifeste politiquement en tant que telle. Prenons les manifestations qu'il y a eu tout au long de l'année 2014. Il y en a eu un bon paquet. Manifestations d'ambulanciers, de taxis, de paysans, mais aussi manifestations de médecins, d'avocats, de notaires, d'huissiers, de pharmaciens. Il y a même eu une manifestation de petits patrons. La petite bourgeoisie, la toute petite, celle qui est proche des conditions de vie des travailleurs, jusqu'à la plus riche, celle qui vit très aisément, sait parfaitement défendre ses intérêts. Même les huissiers savent faire pleurer dans les chaumières en montrant tout ce que leur profession a de vital pour la société. Oui, tout ce monde-là sait parfaitement se mettre en avant. Ils savent dire en quoi ils comptent pour la société. Eh bien, il y a plus nécessaire, il y a plus indispensable et il y a plus vital au fonctionnement de la société que les notaires et les huissiers. Ce sont les travailleurs, ce sont les ouvriers de l'automobile sans lesquels on ne pourrait pas se déplacer. Les ouvriers de l'agroalimentaire, sans lesquels on ne pourrait pas se nourrir, les chauffeurs de car, les cheminots, sans lesquels on ne pourrait pas se déplacer, les infirmières, les aides-soignantes, les enseignants. Oui, les travailleurs que nous sommes. Et j'englobe dans ce mot tous ceux qui aujourd'hui sont condamnés au chômage, mais qui font partie du monde du travail. Oui, les travailleurs que nous sommes, nous portons la société. Sans nous, rien ne peut tourner. Eh bien, nous avons le droit et le devoir de prendre la parole. Nous avons le droit et le devoir de mettre en avant nos intérêts, ces intérêts qui correspondent le plus aux intérêts collectifs et qui correspondent en réalité aux intérêts de la société dans son ensemble. Il faut et il est indispensable que les travailleurs interviennent dans la lutte de classe quotidienne, qu'ils se battent contre le patronat et contre les attaques gouvernementales, mais il faut aussi qu'ils interviennent sur le terrain politique, y compris sur le terrain des élections. Les droits des travailleurs sont organisés à l'échelle de l'État. Ils sont discutés entre partis bourgeois qui ne sont préoccupés que des affaires de la bourgeoisie. Il ne faut pas les laisser décider de notre sort sans nous en mêler. Tous ces partis, s'ils représentent des options différentes, elles vont toutes dans le sens du patronat. Et outre la défense de nos intérêts matériels et politiques au jour le jour, il faut que nous mettions en avant notre politique de classe et ce qui est indissociable. La perspective d'émancipation des travailleurs, celle du communisme. Car sans exproprier la bourgeoisie, sans renverser le capitalisme, on ne supprimera pas l'exploitation. Oh, il y a bien des couches petites bourgeoises dans la société qui arrivent à s'en tirer et pour qui renverser le capitalisme n'est pas une nécessité. Mais pour les travailleurs, ça en est une. Et pas seulement parce qu'on est en crise. Mais parce que même si l'économie redémarre, les travailleurs n'en auront jamais que des miettes. Alors notre présence dans ces élections permettra à tous les travailleurs qui se retrouvent dans cette perspective de l'affirmer. Et même si ce courant est minoritaire, il existe. Et lorsque les travailleurs prendront assez confiance en eux-mêmes pour secouer leur chaîne, eh bien ils s'empareront de ces idées, les seuls progrès. ces élections, votez et faites voter pour les candidats de lutte ouvrière, votez pour faire entendre le camp des travailleurs, les perspectives communistes révolutionnaires.